Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL ce matin. 15 jours maintenant que vous avez été nommé, 15 jours exactement, à la tête de ce ministère avec beaucoup de chantiers, on va y venir. Mais c'est pas trop rude de passer d'une école de commerce, si prestigieuse soit-elle, en l'occurrence l'ESSEC, à ce mastodonte qu'est l'Éducation nationale ?
Non, parce qu'il s'agit toujours d'être avec des êtres humains et avec des grands enjeux en matière d'éducation.
C'est pas la même dimension.
Oui, mais comme vous le savez, j'étais auparavant, il y a quelques années, recteur, puis directeur général de l'enseignement scolaire, donc je connais cette maison, je sais ne pas ni la caricaturer, ni me laisser impressionner, donc je suis à l'aise.
Ça a été beaucoup rappelé pendant la campagne, l'école française creuse les inégalités. Est-ce que c'est ça, pour vous, le problème numéro un de l'école aujourd'hui ?
En tout cas, c'est un résultat, d'une certaine façon, c'est un thermomètre. À partir du moment où il y a des inégalités, c'est bien qu'il y a une série de choses qui ne fonctionnent pas bien. Et moi, ma philosophie, c'est de tirer l'ensemble du système vers le haut. S'il y a des inégalités, c'est parce qu'on ne sait pas suffisamment personnaliser les parcours, parce que chaque enfant est différent. Et au XXIe siècle, on doit avoir une école qui doit être capable d'emmener chaque enfant au meilleur de lui-même.
On remet l'enfant au cœur du système, l'élève au cœur du système.
On peut le dire comme ça, mais pour moi, il y a et le professeur et l'élève au cœur du système. Puisque c'est ensemble que l'on doit tirer le système vers le haut. Ce qui compte, c'est de prendre en compte les particularités, parce que chaque enfant a ses forces et ses faiblesses. Les faiblesses, on doit les compenser, notamment avec de l'aide personnalisée. C'est aussi la mesure devoir fait à laquelle
Alors justement, on va s'y arrêter. C'est un de vos chantiers déjà annoncé en 15 jours. Les devoirs faits. Vous voulez revenir aux études dirigées, on en a parlé d'ailleurs sur RTL déjà, après les cours en collège.
Oui, mais c'est une mesure qui pourrait dans le futur s'étendre à l'école primaire aussi. L'objectif, si vous voulez, c'est d'abord de se dire que oui, les devoirs, c'est important. On a besoin de faire des exercices, on a besoin parfois d'apprendre des choses par cœur, de faire de l'analyse, bref, d'avoir un travail individuel autonome, c'est bon pour l'enfant. Mais en même temps, quand on fait ça, on peut d'une part développer les inégalités entre les familles, parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Et puis d'autre part, je dirais empoisonner la vie de famille, tout le monde connaît ça, les devoirs le dimanche soir, les problèmes que ça pose en famille, etc.
Les tensions.
Donc, pour résoudre cette contradiction, ce paradoxe, le fait qu'il faut faire des devoirs d'un côté, mais qu'en même temps, ça complique les choses pour les familles, eh bien, l'idée, c'est de faire les devoirs à l'école, au collège, donc à la fois avoir une...
Mais ce serait obligatoire, du coup ? Il y aurait des études dirigées obligatoires ?
Non, les études dirigées, ce serait une possibilité offerte aux familles, bien entendu, et puis qui serait faite de façon adaptée dans chaque établissement, puisque vous avez par exemple des collèges en milieu rural qui ont des problèmes de transport scolaire, vous avez toute une série de sujets pratiques qui seront réglés localement, mais il y aura l'obligation partout de proposer cela.
Obligation de proposer, d'accord. C'est mais ça. Comment ? Avec des profs, des surveillants, des bénévoles ?
C'est tout à fait typique de cette mobilisation qu'on peut avoir de l'institution scolaire, mais de toute la société française autour de son école, car bien entendu, les professeurs peuvent être au cœur de ce dispositif par des heures supplémentaires, mais c'est aussi nos assistants d'éducation, mais c'est aussi tout un monde autour de l'école qui existe déjà. Vous avez par exemple des associations très efficaces en matière de soutien scolaire, mais il faut, de ce point de vue-là, labelliser ces associations parce qu'il y a de tout en la matière. Et donc, justement, c'est aussi l'occasion un petit peu de clarifier ce type de situation en matière de soutien scolaire.
Ouais.
Et donc, avoir une vraie politique nationale du soutien scolaire, mais adaptée à chaque endroit,
voilà,
et permettant de compenser les inégalités.
Pardon, une politique nationale, mais avec une mise en œuvre locale. Et là, on arrive à un mot, vous savez, un mot assez sulfureux quand même, l'éducation nationale, c'est l'autonomie. Vous voulez donner plus d'autonomie aux établissements. Quelle autonomie ? Autonomie de moyens, autonomie de recrutement, de pédagogie, d'évaluation ?
Vous savez, l'autonomie, c'est quelque chose de très concret. C'est d'abord ce que l'on veut pour les élèves. Ce que je viens de vous dire sur les élèves, par exemple, c'est créer plus d'autonomie chez eux, être capable de faire ses devoirs, de les faire individuellement, de travailler en équipe. Donc le principe autonomie, le principe liberté, il est au cœur de ce que nous voulons pour nos enfants. Et c'est donc normal de l'appliquer à l'ensemble du système. Après, il y a différentes façons de pratiquer l'autonomie. Vous pouvez avoir aujourd'hui des collèges, d'ailleurs, qui profitent déjà d'une certaine autonomie, en proposant des expérimentations, en proposant des manières de faire bien à eux. C'est ce genre de choses que je veux encourager, c'est-à-dire faire sentir à l'ensemble du système éducatif que l'institution n'est pas une chape de plomb. L'institution n'est pas ce mastodonte.
Mais
que
des expérimentations qui
soutien.
Sont validées quand même par le système central.
Exactement, pour s'assurer que.
C'est pas
les
on fait
bien,
ce qu'on veut dans son coin à Paris.
Non, c'est par exemple, je vais vous donner un exemple, vous avez envie d'avoir des classes de sixième avec des colorations particulières, une dédiée aux langues, une dédiée à la géographie, une dédiée à tel ou tel approfondissement culturel, par exemple aux langues anciennes qui ont été un peu abîmées ces dernières années. Eh bien, si vous, en tant qu'équipe d'un collège, vous voulez faire cela, vous en parlez avec les parents d'élèves, et l'institution, non seulement elle ne va pas vous empêcher de le faire, mais elle va vous aider à le faire.
Mais l'autonomie, c'est une idée un peu de droite, non? Alors que la centralisation, c'est une idée
non.
de gauche?
Comme beaucoup non. de bonnes idées en matière éducative, elle n'est ni de droite ni de gauche. Je ne pense pas que la liberté soit une idée de droite ou de gauche. Je pense que l'idée de donner de la force aux acteurs, l'idée de nous responsabiliser tous, parce qu'il n'y a pas un ministre qui arrive avec sa baguette magique. Il y a une société française qui doit être unie derrière son école. Il faut donc donner de la capacité aux acteurs locaux, le tout dans un cadre national, bien sûr, qui définit les règles.
Oui, alors c'est toute la question, évidemment, d'articuler le cadre national et l'autonomie. Mais vous connaissez le risque de l'autonomie. Il existe, c'est pas seulement, on va dire, une résistance au changement. Ceux qui disent attention au risque, ça peut créer aussi plus d'inégalités. Par exemple, il y a un collège en milieu rural, il a plus de place pour faire plus de choses. Il a plus de bénévoles en milieu urbain qu'en milieu rural. Donc tout ça, ça crée des inégalités si on donne plus d'autonomie.
Donc, quand un collège réussit à faire plus qu'un autre, c'est jamais un problème. C'est quand qu'un autre fait moins qu'un autre que c'est un problème. Ouais. Or, aujourd'hui, de toute façon, vous l'avez dit vous-même en commençant, le système a des inégalités. Donc si c'était si bien que cela, il n'y aurait pas les inégalités aujourd'hui. Ce qui permet de lutter contre les inégalités, c'est de tirer tout le monde vers le haut et de laisser tout le monde pouvoir développer son projet. Et quand moi, j'ai souvent vu dans ma carrière précédente, de recteur en particulier, j'ai souvent vu deux établissements avec les mêmes caractéristiques sociales et culturelles avoir deux sorts complètement différents. Un qui va bien, un qui va mal. Dans un cas parce qu'il y a une équipe éducative qui a des projets, dans l'autre parce que ça ne s'est pas produit. Donc, quand il arrive une chose pareille, on doit soutenir celui qui ne va pas bien. Donc l'autonomie, elle est au service de la lutte contre les inégalités.
Donc plutôt avoir envie de faire plus que d'empêcher ceux qui peuvent faire plus de le faire.
Exactement. C'est... Même raisonnement pour les élèves que pour les établissements. Quand quelque chose ne va pas, on aide encore plus. Donc c'est ça aussi de faire de la différenciation.
Oui, faire de la différenciation avec le risque, effectivement, parfois on fasse plus quelque part, mais vous dites c'est pas un problème.
Si on tire tout le monde vers le haut, c'est évidemment pas un problème. On amenuisera les inégalités par cette méthode.
On reste au collège, vous allez restaurer progressivement, vous l'avez dit, les classes bilangues, les classes européennes, le latin et le grec. Pourquoi ne pas supprimer carrément les EPI, ces enseignements interdisciplinaires? Pourquoi vous laissez, vous dites, on va les garder?
Si je vous disais ça, je serais contradictoire avec tout ce que je vous ai dit avant. Ce qui compte, c'est que chaque... Une des choses qui n'allait pas dans la réforme du collège...
Vous seriez plus clair sur les EPI aussi.
Si vous voulez, la réforme du collège qui a eu lieu ces dernières années, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait d'un côté, il faut de l'autonomie. Et ça, je peux dire oui. 20% de possibilité de travailler sur des horaires librement pour chaque établissement. C'était une bonne idée. Et en même temps, elle supprimait ce que les collèges avaient su créer grâce au peu d'autonomie qu'ils avaient. C'est-à-dire ce que vous venez de mentionner, les classes bilangues, les sections européennes, etc. Donc moi, et puis elle obligeait tout le monde à faire les fameuses EPI. C'était une énorme contradiction. Donc moi, je reviens à de la cohérence. C'est-à-dire, je garde la notion d'autonomie, mais en revanche, je dis au collège, vous avez le choix. Si vous avez fait des EPI qui vous plaisent, gardez-les. Mais vous pouvez, bien entendu, vous aurez la possibilité de faire les classes de latin qui ont été stupidement supprimées.
Et alors, ça va être progressivement restauré? Comment ça va se passer dans le calendrier?
Oui, bien sûr, et de manière extrêmement...
Dès la rentrée prochaine?
Alors, dès la rentrée, on fait le maximum. Vous savez, on arrive au mois de juin. J'arrive évidemment un petit peu tard pour la préparation de rentrée. Mais en tout cas, on est en train de faire le maximum. Et notamment le maximum pour le rétablissement des classes bilangues, puisque c'est un engagement du président de la République.
Alors, question subsidiaire, mais elle est intéressante, aussi importante. Il y a eu un décret sur le redoublement en 2014 qui rend les redoublements exceptionnels et difficiles à négocier. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez abroger ?
Ce qui est très important, c'est la personnalisation des parcours. Je vous le disais à l'instant, chaque élève doit avoir son parcours et parfois le redoublement peut être une solution. Ça doit être le cas le moins souvent possible. Ce qui est très important, c'est surtout de l'aide personnalisée pendant l'année pour justement éviter le redoublement. Mais ça ne sert à rien de se voiler la face quand il y a un problème et que le redoublement peut être utile.
Et donc, le redoublement, vous voudriez qu'il ne soit plus gommé comme...
Je veux qu'on voit ce sujet comme tous les autres de façon pragmatique pour le
bien
de l'élève.
Parce que ça a fait chuter le niveau dans certaines classes qu'on empêche les élèves de redoubler à certains stades.
C'est surtout, le problème n'est pas tellement celui-là, c'est le problème c'est que vous avez des élèves qui accumulent des retards tout au long de leur scolarité, et quand ils arrivent en troisième, ils ne maîtrisent même pas les fondamentaux que l'on attend en fin d'école primaire. Donc il faut évidemment résoudre les problèmes à la base. Ce sera mon principal sujet, ce sera celui-là, et je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais c'est la question de l'école maternelle, du cours préparatoire, du CE1, c'est-à-dire ce que l'on fait au début de la scolarité pour que savoir lire, écrire, compter et respecter autrui soit quelque chose d'acquis très, très jeune.
Donc on y va. va, mais juste pour que je comprenne bien, ce décret sur le redoublement qui date de 2014, vous souhaitez éventuellement l'abroger.
Ça fait partie des choses D'accord. qui sont sur ma table.
Alors, le grand chantier, effectivement, c'est le dédoublement des classes en CP dans les zones prioritaires, les REP, des effectifs à 12. 2200, avez-vous annoncé, dès la rentrée prochaine, en redéployant les profs, les enseignants, pardon.
Oui, de toute façon, nous avons des créations de postes à la rentrée. Nous avons,
combien sur les 5000 ou 6000
4000 créations de postes qui doivent nous permettre
à la fois... Qui étaient déjà dans le contingent
oui,
de
qui sont dans la préparation de rentrée. Enfin, vous savez, c'est, voilà, c'est l'État. C'est l'État. Ouais. Et aujourd'hui, donc, avec un nouveau gouvernement. Mais en tout cas, avec les moyens que nous avons, nous pouvons tout à fait faire ce dédoublement. Ce dédoublement sera précieux. Pourquoi nous le faisons ? Nous le faisons parce que tout ce que je vais faire, je le base sur des études, je le base sur la preuve, sur le fait que des choses ont marché parce qu'on les a expérimentées soit en France, soit ailleurs. Le dédoublement en cours préparatoire, c'est-à-dire à 6 ans, est quelque chose qui a fait ses preuves, il y a des études qui le démontrent, et c'est ce qui va nous permettre de lutter à la racine contre la difficulté scolaire dans les endroits les plus défavorisés. Donc nous le faisons parce qu'il y a là quelque chose de prouvé, et en plus, nous mettons des dispositifs d'évaluation, ce qui fait que dès le déroulement d'une année...
à quel stade ?
L'évaluation du dispositif au bout d'un an pour savoir si ce que nous faisons marche. Et nous saurons dans le futur infléchir, avancer en fonction des résultats que nous observons.
Alors, quelques questions rapides parce que malheureusement, il reste peu de temps. Il y a des résistances, hein, on le disait tout à l'heure. J'entendais ce matin une syndicaliste de la FSU qui disait « Mais comment faire pour les locaux ? On va nous mettre des algécos dans la cour pour permettre ces dédoublements. » Oui, comment vous faites ? C'est vrai qu'alors, pour le coup, en ville, il n'y a pas beaucoup de place dans les établissements. Il y en a plus dans les zones rurales.
Chaque collectivité locale est un cas particulier. Donc, vous le disiez, nous sommes arrivés depuis 15 jours. J'ai déjà fait le travail avec les académies de dialogue avec elles pour qu'elles fassent une enquête sur la question. Mes premières remontées me rendent très optimiste. Nous ne réussirons pas à 100% sur le plan du dédoublement physique des classes, mais nous allons faire dans la très grande majorité des cas.
Question, réponse rapide, s'il vous plaît. Téléphone portable, faut-il l'interdire ?
Le président de la République l'a dit et il a eu évidemment raison. Nous savons tous que ça peut perturber beaucoup de choses. Simplement, il faut le faire d'une manière pragmatique aussi. Donc on va étudier...
Pour quels élèves ?
Oh bah, ce serait valable pour tous les élèves, bien entendu.
Êtes-vous favorable à la dépénalisation du cannabis ? Ça concerne aussi les élèves, puisqu'il y a des ventes à la sortie de tous les établissements scolaires. C'est une question générale, mais c'est une question concernante pour un ministre.
Je ne suis absolument pas favorable. Toutes les études, là aussi, montrent à quel point le cannabis est nuisible. Le cannabis fait du mal au cerveau. Le cannabis est mauvais pour l'être humain, tout simplement. Et c'est de plus en plus vrai, puisqu'en plus, il est de plus en plus dur. Donc il ne faut absolument pas laisser courir l'idée que le cannabis peut être quelque chose qu'on doit tolérer dans notre société. C'est mauvais pour nos enfants. Et donc je serais fou en tant que ministre de l'Éducation de vous dire autre chose.
Dernière question, vous êtes issu de la société civile, vous n'avez jamais été élu mais vous appartenez maintenant à un gouvernement. Que pensez-vous de la polémique autour de Richard Ferrand dans laquelle il semble empêtrer votre confrère ministre ?
Jusqu'à aujourd'hui j'étais très concentré sur mes dossiers, j'ai donc vu ce qui se passait. Je suis aussi au départ un professeur de droit, j'ai vu que le parquet avait dit qu'il n'y avait pas lieu à poursuite. Pour moi ça me suffit comme référence. Je me réfère évidemment aux institutions judiciaires dans ces cas-là, et j'ai vu que le parquet avait dit qu'il n'y avait rien à poursuivre.
Est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron se prononce ? Il a été muet pour l'instant sur ce sujet. Est-ce qu'à ce stade, il faudrait quand même l'entendre, compte tenu de son exigence d'exemplarité ?
C'est évidemment à lui de décider, mais comme vous l'avez vu, il a une très riche actualité internationale et une très belle
et maintenant, il va passer aux affaires nationales et peut-être parler de cela bientôt. Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer d'avoir été notre invité ce matin sur RTL.
Jean-Michel Blanquer qui rappelle que son projet vise essentiellement l'autonomie et la personnalisation des parcours des élèves. Lire, compter, savoir respecter autrui, ça c'est le programme pour les élèves du primaire. Et concernant sa nouvelle maison, je ne sais ne pas la caricaturer ni me laisser impressionner. Merci à tous les deux, l'entretien est à retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr.